Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Keuf, keuf. Il y a 2 semaines, on apprenait que les Parisiens fumaient beaucoup plus que le reste des Français. Les jours de pic de pollution, leurs poumons ressemblent à une grosse et sale gauloise sans filtre, puisqu'ils respirent l'équivalent de la fumée de 8 cigarettes allumées dans une pièce fermée de 20 mètres carrés. Alors pour que les Parisiens retrouvent leur respiration, et le reste du monde aussi, un plan de protection de l'atmosphère a été mis sur pied il y a quelques années. Parmi ces mesures, interdire les feux de cheminée en foyer ouvert en Ile-de-France à partir du 1er janvier 2015. Entre nous, en Ile-de-France, il faut déjà réussir à se payer un foyer tout court, alors de là à s'en trouver un avec cheminée en état de marche, ça doit pas concerner grand monde, bref. Voilà que ce matin sur FR2, notre ministre de l'écologie, j'ai nommé l'extraordinaire Ségolène Royal, a jugé, je cite, « excessive » cette décision. Elle trouve, je cite encore parce que c'est du miel, qu'on est un peu dans l'écologie punitive. Notre chère Ségolène Royal, celle qui a déjà renoncé au portique Ecotax face à des bonnets tout rouges de colère, une décision qui amène aujourd'hui d'ailleurs la société Ecomove, chargée de la production des portiques, à annoncer un projet de suppression de tous les emplois existants, soit 200 salariés. Ségolène, Ségolène, personne n'a sauté de joie quand on t'a vu nommée au ministère tout vert, mais tout de même, tu n'as pas eu l'information ? L'Organisation Météorologique Mondiale de l'ONU a publié un rapport montrant que 2014 a vu une température moyenne jamais enregistrée sur Terre. Entre janvier et octobre, elle a atteint 0,09 degrés de plus que la moyenne de 14 degrés. Mais tu as dû passer à côté, trop occupée à faire ramonner la cheminée de ton appartement.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Dans une deuxième partie d'émission, nous recevrons l'association Les Trois Singes. Ce sera juste après la vigie de Pierre-Antoine. Mais d'abord...
Pour le dessert, vous m'avez envoyé une recette que j'ai décidé de revisiter à ma manière.
Prenez de la farine, versez dans la terrine.
Et là maintenant, on ajoute...
Un carré, rond, 3/4 de sucre au bain-marie.
Et là maintenant, on va le mettre au frigo.
Ajouter 50 g de beurre fondu, 80 de farine.
Maintenant, j'ajoute la crème fouettée.
Et un peu de poivre en grain.
À table, ce soir, on cause manger Boostify, délices des délices, Mian, Bombouf et autres Yumi avec les dodus de l'Ouest. Enfin, une partie seulement, la moitié des 6 en studio, Hélène, David et Amandine. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Il manque donc Manon, Charlotte et Claire, trop occupées à cuisiner sans doute. Les Dodus de l'Ouest, ce sont donc 6 étudiants, un homme et 5 femmes, qui se sont réunis autour de l'amour de la cuisine et ont monté un blog il y a quelques mois, Les Dodus de l'Ouest. Est-ce que vous préférez manger ou cuisiner ?
Manger, en ce qui me concerne.
Hélène, manger, oui.
Alors moi, ce sera manger, mais j'avoue que cuisiner, c'est une grande partie de mon temps également. Je dirais moite-moite.
Moite-moite, et David.
Moi, je ne suis pas patient, je préfère manger direct.
Direct.
Voilà.
Comment est-ce que vous êtes venu à la cuisine et à manger ? Votre première émotion gustative, peut-être votre premier rapport au fourneau, il est venu tôt ?
En ce qui me concerne, moi, ça va être surtout avec la famille, le côté familial, le rapport justement convivial, social qu'il y a autour des plats. Et puis, il y a toujours des personnes, même si ce n'est pas de la grande cuisine, c'est... Le repas que papa a fait, que maman a fait, que la tante ou la grand-mère. Donc il y a toujours un côté spécial derrière qui se retrouve. Bon, personnellement, moi, c'était surtout quand on partait à la montagne avec les grosses randonnées dans la journée et que le soir, on rentrait et on se faisait un énorme repas pour bien compenser un petit peu. Et là, c'était le moment, genre, à la fin de la journée, on se pose et c'est fini et on mange et on rigole et c'est tout.
Donc, et c'est convivial.
Et c'est exactement ça, oui.
Pour vous, David et Amandine ?
Pour moi, c'est... pratiquement pareil, c'est se retrouver en famille avec les amis, manger des choses simples, pas forcément gastronomiques aussi, mais enfin, vers chez moi, c'est plutôt des trucs assez lourds quand même. Je viens du pays du cassoulet, donc déjà.
Forcément.
Ouais, voilà.
Donc ça s'entend.
Ouais, un peu, ouais. Un peu. Ouais, non, après, c'est des choses assez simples. Moi, je me régale un verre de vin, un peu de charcuterie et du fromage. C'est mon bonheur, voilà, c'est tout ce que je demande.
Alors moi, personnellement, ça a été plus les vacances, les grandes vacances chez ma grand-mère. Donc j'ai toujours eu l'habitude d'aller chercher, les framboises et de faire de la confiture. Ça a toujours été une activité familiale. Et ensuite aussi, ça s'est beaucoup développé plus avec ma mère, comme je suis végétarienne depuis toujours. Donc pour apprendre à cuisiner comme tout le monde, que c'est pas forcément restreint et qu'il y a une multitude de choses à faire en étant végétarien. Donc c'est vrai que j'ai appris très tôt à cuisiner autrement.
Très tôt, bien avant cette mode des émissions de télévision qui ont inondé les chaînes il y a quelques années, pour en citer quelques-uns, Top Chef, Master Chef, Un Dîner Presque Parfait. Ça, vous en pensez quoi de ces émissions, de ces programmes? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça fait venir les gens à la cuisine? Ou est-ce que ça dénature, vous, votre vision de la cuisine?
À mon sens, bon, après, moi, je ne suis pas une grande fan de la télé, mais les émissions, en soi, en fait, je les trouve intéressantes dans le sens où ça casse un peu ce mythe, ce grand mythe de la haute gastronomie française avec le chef, sa cuisine et à côté le mangeur qui n'a rien à faire en cuisine et qui lui se contente de manger. Ça vulgarise un petit peu la cuisine, justement, ça la rend un peu plus accessible. J'aime bien ce côté-là. Après, c'est vrai que ça a fait un grand engouement et je comprends qu'au niveau des écoles, ça puisse être un peu compliqué parce que ça fait un peu une starification en fait du chef. Mais c'est comme dans tout domaine, on ne devient pas forcément une star. Donc, et puis, si on cuisine juste pour devenir une star, au final, ça perd un peu de sa valeur, surtout en France où à la base, la cuisine, c'est personnel, c'est familial, c'est quelque chose de très beau. Et si on y va juste pour le succès ou quelque chose comme ça, c'est un côté qui me dérange un petit peu. Après, moi, je trouve ça très beau qu'on valorise à ce point-là la cuisine et que ça donne de plus en plus envie aux gens de cuisiner, de faire des belles choses.
Alors, oui,
d'accord. Ouais, non, juste, même si, enfin, je trouve ça intéressant, du coup, ça a permis vraiment de démocratiser la gastronomie en général et du coup d'intéresser les gens, parce qu'avant, personne n'en parlait. Hein. Mais moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est ce côté un peu télé-réalité, en fait, qu'on est en train de mettre en place. Enfin, voilà, c'est ce truc que je trouve dommage.
Alors, vous, les Dodus, vous êtes rencontrés en master, un master gastronomie, vin et tourisme à l'Université d'Angers. Vous recevez des cours du genre art et cuisine, design culinaire, patrimoine mondial, repas gastronomique des Français. En quoi ça consiste exactement, cette formation, et pourquoi faire après? Amandine?
Alors, ça consiste tout d'abord, il y a des matières assez générales pour remettre un niveau au départ de marketing, de communication. Et après, nous avons des matières plus au niveau du tourisme, et également donc, de la gastronomie, comme vous avez dit, art et design, au niveau de la géographie de l'alimentation également, notamment également au niveau de l'œnotourisme, parce qu'il y a une bonne partie de la promotion qui se dirige plus au niveau du vin ou des interprofessions. Il est aussi possible de s'orienter vers la critique culinaire, vers la promotion à un niveau régional de produits. Donc c'est assez large et tout dépend en fait, du stage qui va nous spécialiser vraiment vers le domaine précis dans lequel on souhaite se professionnaliser.
Stage dont on parlera tout à l'heure, vous verrez où vous partez. Vous êtes combien dans cette formation?
On est 35.
35.
Et on a la chance d'être moitié-moitié, en fait. Moitié d'origine française et moitié d'origine chinoise, donc ce qui crée un certain choc culturel parfois, mais qui a aussi ses intérêts, puisque bon, ça permet de découvrir un peu l'autre aussi, parce que bon, il n'y a pas que... Dans le monde de la cuisine, il y a quand même deux grandes cuisines enfin, qui ont une grande histoire, et c'est la cuisine française et la cuisine chinoise qui sont deux des cuisines les plus riches du monde en, fait, en termes de retour, quand on y réfléchit un petit peu, quand on regarde l'histoire des deux pays. Donc ça, mais on est 35, voilà, pour répondre à la question du début.
On va parler de ce blog. Comment vous êtes venu à ce blog-là? Comment vous est venue l'idée de le monter alors que Internet est déjà blindé de blogs culinaires?
C'est un peu, oui, c'est clairement la tendance enfin, du moment. Il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus d'émissions, il y a de plus en plus de blogs aussi. On s'est rencontrés du coup l'année dernière pour le master. Il y a Manon, donc une des Dodus, qui depuis un petit moment avait envie de créer un blog de cuisine. Le problème avec les blogs de cuisine, c'est que, et puis même les blogs de manière générale, c'est que ça demande quand même énormément d'investissement, beaucoup de temps pour écrire les articles, pour faire les recettes, ça demande beaucoup de soi. Et cette année, on s'est rendu compte qu'on rigolait beaucoup sur le fait de créer un blog, sur parler de ceci, des adresses qui n'en avaient pas à manger, par exemple, déjà. Et on s'est décidé à lancer un blog, justement, tous ensemble, ce qui s'est avéré une très bonne chose au final, parce qu'on arrive à se retrouver un petit peu au niveau de nos spécialités, parce qu'on a tous des petites spécialités, il y a des préférences au niveau de la cuisine, donc C'était plus à ce niveau-là, en fait.
On rappelle l'adresse du blog, c'est lesdodus.wordpress.com. De quoi on y cause? Alors, il y a des recettes, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des critiques de restaurants.
Oui, oui, également, il y a des restaurants, notamment, donc, principalement sur Angers, puisque depuis le début, on a été sur Angers, mais également sur Paris. Lors de nos stages, une bonne partie donc, l'a réalisée sur Paris. Et donc, au fil de nos expériences, si un restaurant nous plaît vraiment, on fait un article sur cet établissement. Donc, il y en a notamment en Normandie, à Caen. Donc, ça va évoluer tout au long de nos stages, notamment.
Il y a aussi une partie shopping.
Une petite partie shopping, oui. Pour le moment, c'est Manon qui a toujours vécu dans la cuisine, à bien des écarts, bien plus que nous, en fait, et qui est vraiment dans ce monde-là depuis longtemps. Et ça concerne également tout ce qui est accessoires, tout ce qui est éléments, et notamment la bibliothèque de Manon. En termes de livres culinaires, je pense qu'elle pourrait rentrer facilement dans le livre des records à la rigueur. Et elle s'est trouvée également, donc chaque Noël, en fait, elle a sa petite liste de cadeaux qui sont en rapport avec la cuisine. Et ça, il y a une année où elle avait trouvé justement un tablier, en fait, qui est créé par une fille qui s'occupe elle-même de la création justement de tabliers un peu originaux, et Manon en avait commandé un justement. Donc c'est pour le moment, ça s'est arrêté à ça, mais il y a aussi une rubrique shopping, en effet. Ouais.
Pour revenir aux recettes que vous proposez, c'est destiné à qui? Aux étudiants, aux gens fauchés, aux gens qui font déjà de la cuisine? Je prends l'exemple des encornets sur lit de tomates, piment doux et tagliatelle. Je sais pas si je serais capable de le faire. Ça concerne qui alors, ces recettes-là? C'est pour qui?
Ben on fait vraiment différentes recettes. Je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a des recettes plus pour les étudiants, des recettes simples, des recettes un peu plus compliquées qui sont un peu plus onéreuses. Mais sinon, je pense qu'il y a vraiment. On essaye de toucher le plus de personnes possible. Parce que vraiment le but, c'est de faire de la, entre guillemets, de la cuisine simple avec des produits simples et vraiment de la cuisine un peu plus élaborée. Par exemple, pour les fêtes de Noël, on a créé des choses un peu plus élaborées pour un certain média. Donc,
Angémac, pour ne pas le citer.
Exactement.
On va continuer à parler cuisine juste après Le Chapelier Fou avec Grand Arctica.
Thank you.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ce soir, on cause bouffe avec les dodus de l'Ouest. Ce qui fait la particularité de votre blog, c'est qu'il est collectif et que chacun de vous a ses spécialités, ses préférences. Ça donne un mix intéressant. Par exemple, Amandine, hormis le fait d'être bavarde, vous êtes végétarienne. Hélène, hormis le fait d'être une grande voyageuse, vous êtes chocovore. Et puis David, hormis le fait d'être un homme, vous aimez la street food.
Oui, on ne peut pas être parfait.
C'est pas un peu cliché ça d'être un homme et d'aimer manger des kebabs?
Je sais pas, mais je sais pas trop comment répondre à ça, mais non, je dois.
C'est pas obligé.
Ouais, pas de réponse.
Ça appelle pas. La street food, est-ce qu'elle est en train de changer? On a connu là, il y a, je sais pas, 2 ans peut-être, la vague des truck food, ces camions qui faisaient de la nourriture dans la rue. Est-ce que c'est encore à la mode? Comment ça évolue?
Alors, ça a évolué pas mal du coup depuis ces 2 dernières années. Avant il n'y en avait pas du tout, puis là ça, en fait c'est un concept qui est venu des États-Unis qui est arrivé en France il y a 2 ans, et on commence vraiment à s'essouffler quoi. Je veux dire, c'est vraiment un concept qui commence à s'essouffler parce que c'est très compliqué de créer un food truck en France avec toute la législation et tout, des choses comme ça. Du coup ça freine pas mal de monde, tout le monde veut en faire mais c'est pas possible au niveau de la législation. Du coup, on voit que quand même, c'est maintenant un peu blindé quoi. Enfin, genre, c'est plus possible maintenant de créer des food trucks comme ça dans les grandes villes, mais dans les petites villes, je pense qu'il y a encore moyen, encore un petit peu de se faire une style part du gâteau, mais après, ça risque d'être un peu compliqué quand même.
À Angers, il y a des food
trucks. Oui, il y en a un, ouais. My Little Food Truck, dont je pense. Après, j'en ai bien un autre, mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle.
Il y en a deux, trois autres, mais ils sont, en fait, à chaque fois, ils sont un peu excentrés. Donc, ce n'est vraiment pas le type d'endroit qui sont les plus accessibles, on va dire, ce qui est logique. Donc, d'autant par ce que disait David au niveau de la législation, c'est compliqué de trouver des endroits dans le centre parce que les restaurants ne sont pas d'accord. Ça leur prive d'une certaine clientèle. Après, de là, je ne connais pas les noms, pour être honnête. Hein. Mais il y en a... On est 2-3 à Angers.
C'est possible de mélanger gastronomie et street food alors ?
Alors bien sûr. Bien sûr, il y a par exemple, je vais donner un petit exemple, sur Paris par exemple, il y a des hot dogs gourmets. C'est vraiment fait avec des bons produits et pas du tout avec des knackis, des choses comme ça. Il y a vraiment une recherche. Par exemple, même il y en a un du coup sur Angers, ça s'appelle Arcadia, qui font des kebabs entre guillemets. Mais vraiment des bons kebabs, quoi, avec une bonne viande, c'est fait maison, avec 13 épices dedans, avec des légumes, des choses comme ça. Vraiment, je pense qu'on tend vers une bonne qualité, vers des bons produits, des choses comme ça. C'est vraiment la mode, si je puis dire, et c'est tant mieux parce que ça, enfin, on se régale, quoi.
Alors, en cuisine comme en tout, il existe des tendances. On a évoqué les food trucks tout de suite. Il y a aussi eu la folie des cupcakes, vous savez, ces petits muffins coiffés d'une couche de sucre et de paillettes en sucre aussi. Est-ce que ça, c'est encore à la mode ou c'est bientôt fini?
Alors, ce qui est plus à la mode en ce moment, c'est plus au niveau des boutiques monoproduits sucrés, comme les choux, les éclairs. Donc, tout ça, ça se situe plutôt sur Paris. Aussi, il y a une boutique de pop-corn.
Spécialisée pop-corn.
Oui, spécialisée pop-corn. Donc, oui, ça tend à se développer sur différents produits, mais les choux et les éclairs sont les produits phares. En ce moment.
D'accord, des boutiques uniquement consacrées aux éclairs.
Oui, des tournées avec différentes préparations, différents goûts, renouvelés, un peu original pour rester toujours au goût du jour. Mais oui, juste des éclairs et ça fonctionne pour le moment.
Ça fonctionne très bien même.
Oui, oui, oui.
D'autres tendances ?
Oui, enfin il y en a quelques-unes. Après, il y a cette montée qui est très intéressante, par exemple au niveau des insectes. Les restaurants qui
Jiminy's,
voilà, qui est une société qui propose justement des petites barquettes avec par exemple des criquets au curry et qui se mangent comme ça à l'apéritif, de la même manière que nous en France on va manger des chips ou des cacahuètes. Enfin, c'est une tendance qui commence à changer parce qu'on se rend compte, enfin avec ce qui se passe actuellement dans le monde, que la manière dont on mange, dont on produit, n'est pas forcément la meilleure. Et puis donc du coup, il y a des nouvelles tendances qui apparaissent comme ça.
Ça peut prendre ça en France ?
Ça pourrait.
Moi, je pense, enfin pour l'instant, à partir de là, pour l'instant, c'est pas possible parce que le criquet, par exemple, ou les insectes ne sont pas considérés comme des aliments par la loi française. Ailleurs, oui, et chez nous, non. Donc pour l'instant, en fait, c'est que c'est ajouté sur des plats, par exemple sur du foie gras, des fourmis grillées, des choses comme ça. C'est plutôt sympa, mais voilà, je pense que c'est juste un petit agrément. Ça
c'est
peut pas rester que ouais. manger des criquets ou que des insectes en général.
Merci.
Bon appétit.
Bah, c'est au stade de curiosité, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça va pas s'implanter comme ça tout de suite, parce que déjà pour le moment, nous on trouve pas ça spécialement intéressant et on va pas saliver en voyant un criquet ou une fourmi. Et donc tant que ce stade-là ne sera pas passé.
Mais ça se développe beaucoup sur Paris. Hein,
tester pour l'apéro, des soirées, pourquoi pas.
Spécialisé insectes et ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal déjà pour cette entreprise de Jiminy's. C'est ils font vraiment des belles choses, quoi.
Une autre tendance peut-être qu'on ne connaît pas encore et qui va prendre.
Il y a les gyoza, donc c'est des raviolis en fait japonais qui commencent à fonctionner assez. Donc après moi je connais surtout, je viens de région parisienne, donc je connais surtout pas forcément des adresses, mais je sais qu'il y en a pas mal là-bas, des bars à gyoza, donc qui proposent essentiellement des petites assiettes en fait avec seulement des gyoza, donc ces raviolis japonais qui sont servis souvent avec des bières japonaises ou alors du saké donc japonais. C'est un peu une tendance, enfin c'est un peu le même concept que les monoproduits tout à l'heure en fait. C'est essayer d'aller dans
l'excellence.
Dans la perfection d'un produit vraiment dans sa plus haute qualité.
Alors je le disais tout à l'heure, vous avez tous des profils différents et vous venez tous de régions différentes, Languedoc, Normandie, région parisienne, donc Charente, Alsace ou d'ici. Et beaucoup d'entre vous ont voyagé, ont baroudé, Chili, Québec, Chine, Angleterre. Vous avez donc pu constater des cultures culinaires différentes. Hélène, vous le disiez tout à l'heure, le fait de vous retrouver avec des étudiants chinois, ça permet aussi de confronter ces cultures-là. Ça enrichit, j'imagine, votre palette.
C'est ça, ouais. Ça enrichit, ça ouvre ça crée de nouvelles possibilités, des opportunités. On se rend compte qu'il n'y a pas que, la gastronomie française, il y en a d'autres. Après, ceci étant dit, on se rend compte quand on parle à l'étranger qu'on est très intéressé, très attaché surtout à notre culture, quoi. Enfin, moi, j'ai passé du coup quelques temps au Québec et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand je voyais un camembert à 9 $, au bout d'un moment, on se dit bon, je vais passer le temps et je vais prendre un cheddar et puis quand je reviendrai en France, je me prendrai un vrai fromage, quoi. Mais ça, non, ça ouvre, on se rend compte qu'il y a d'autres possibilités, c'est vraiment intéressant.
Et entre vous, rien que le fait de venir de régions différentes, est-ce qu'il y a eu des chocs de culture culinaire?
Oula.
Culinaire, non. Choc, oui. Mais culinaire, non, pas spécialement. C'est...
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a tous un peu ramené de son pays, quoi, quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai ramené...
Du cassoulet.
Même pas. J'ai même pas ramené du cassoulet. Non, mais pas mal de charcuterie, des trucs des Pyrénées, quoi. Il y a pas mal d'alcool aussi parce que
consommer avec modération forcément.
bien sûr mais non, mais c'était intéressant ce melting pot entre guillemets, tout le monde ramenait ses petits trucs, faire découvrir les choses, quoi. Les bonnes choses.
Est-ce que ce blog Les Dodus, c'est aussi un moyen de dire à vos camarades étudiants arrêtez de manger n'importe quoi? C'est possible?
Oui, c'est possible, mais c'est vrai qu'au départ c'est pas forcément parti de cette intention là, c'était plutôt pour vraiment se faire plaisir, partager nos recettes. Oui, tout le monde peut cuisiner. De celui-là qui pense pouvoir juste faire des pâtes à celui-là qui a envie de tester des nouvelles choses plus tendances. Donc, c'est vraiment pour partager. Puis, ainsi que les adresses, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans une autre ville, on a envie d'avoir des avis. Et donc là, vraiment, on fournit nos coups de cœur. On ne se permet pas non plus d'écrire d'articles quand on n'aime pas un restaurant, par exemple. Donc on ne se prend pas pour des critiques, tout simplement. Donc c'est vraiment nos coups de cœur et du coup, allez sur notre blog et découvrez les restaurants, ils sont vraiment excellents.
C'est surtout qu'on n'a pas la légitimité pour critiquer un restaurant. Et que, nous,
on ne se permettrait pas.
C'est que des coups de cœur, des choses comme ça.
Les bonnes adresses.
Alors justement, vos bonnes adresses sur Angers, est-ce que vous avez des adresses à nous donner, des conseils?
On peut en dire une chacune par exemple,
une ou deux,
oui. Enfin, personnellement, moi, il y a l'Angevine que j'adore. C'est un bar, alors comme il se désigne, donc c'est bar à vin et cave à manger. Donc c'est un bar qui est tenu par deux personnes qui se situe 5 rue Saint-Étienne en fait, dans le centre d'Angers, près de la place Saint-Bac. Et donc personnellement, moi, j'adore parce que c'est exactement le style d'endroit où je me vois après le travail, en fin de semaine, enfin n'importe, me poser avec des amis et puis de prendre un verre de vin qui sont d'ailleurs excellents à chaque fois, qui sont très bien conseillés, et puis une planche de charcuterie ou de fromage, et puis de parler, et puis de rester parfois 1 heure, 2 heures, 3, et puis vraiment parler, passer un bon moment en fait. Donc Voilà.
Donc moi, j'en aurais deux. Donc une, Osée, donc qui est située plutôt rue Toussaint, plus précisément 19 rue Toussaint. Donc là, c'est un restaurant qui propose donc différents plats donc du jour. Donc ça change tous les jours. On peut revenir manger toute la semaine et ça sera différent avec des produits vraiment locaux. Le chef va faire le marché donc toutes les semaines et il y a toujours une possibilité végétarienne. Donc c'est quelque chose forcément qui me touche. C'est des plats recherchés généralement, donc originaux qu'on fait pas forcément à la maison. Ça permet également de découvrir des nouveaux produits que je ne sais pas forcément. Ensuite, la deuxième adresse, ça sera les casse-croûtes de Suzy. Donc là, c'est plus au niveau de la restauration, plutôt sur le pouce, mais qualitatif. Et là, par exemple, c'est vraiment végétarien également. Il y a également un menu sans gluten. Et il y a des salades, des soupes. Et c'est à un prix raisonnable. Donc la formule à midi, 10 euros pour jusqu'au dessert. Et une ambiance vraiment chaleureuse. Donc voilà.
David ?
Ouais, moi c'est plutôt aussi sur le pouce, parce que je suis un peu spécialisé là-dedans. Mais ça serait plutôt pour les gros mangeurs. Par contre, ça s'appelle l'Oriflamme. Ça se situe place de la Visitation en face de la gare d'Angers. Mais c'est là, c'est pour vraiment les gros mangeurs. C'est, si vous avez vraiment faim et que vous avez envie de manger un bon poulet, je vous défie d'aller le manger le sandwich en entier parce que c'est vraiment sympa quoi.
Hélène, vous avez cité Langevigne. On va quand même dire que mercredi 17, dans 8 jours, donc, vous y êtes, vous, à Langevigne, les Dodus de l'Ouest. Qu'est-ce qui va se passer ?
En fait, les Dodus s'invitent en fait, clairement à Langevigne. Les deux tenants du vin en fait, nous ont proposé de créer. En fait, il y a des planchas, des planches qui sont proposées à chaque fois, donc soit de fromage, soit une planche de charcuterie ou une planche végétarienne qui sont proposées à Langevigne. Et ils nous ont proposé justement de créer notre planche le temps d'une soirée pour leurs invités. Et donc après, on peut vous citer quelques plats.
Pour vous faire saliver un petit peu. Donc la planche salée sera composée donc, par exemple de petits cakes camembert pomme, de chaussons betterave chèvre, de foie gras bien entendu puisque ça va être Noël, avec son chutney aux abricots. Un petit steak tartare aux trois épices. Et donc par exemple du saumon également accompagné de chaours. Et puis on proposera aussi une petite planche dessert. Donc là un fondant au chocolat avec sa glace vanille. Donc je vous invite tous à venir à Langevigne mercredi 17.
C'est une torture là, ça nous donne super faim.
Surtout ça, là.
C'est le but.
Rapidement, qu'est-ce qui va devenir du blog puisque vous partez en stage? Alors déjà, où est-ce que vous partez en stage pour cette fin d'année?
Alors, en ce qui me concerne, moi, je pars donc, je rentre plutôt d'ailleurs à Paris, dans une société en fait qui va bientôt avoir 10 ans, qui organise des festivals culinaires. En mars, du coup, c'est Omnivore, donc en mars, ce sera à Paris, et qui de plus en plus se diversifie et qui va dans de plus en plus de pays différents, donc Moscou, dans différentes villes, grandes villes, donc Moscou, Sydney, Londres, Shanghai, Montréal, et du coup ce sera pour l'événementiel culinaire en fait.
Amandine ?
Alors moi normalement ça sera dans une agence de tourisme au sud de la France, donc pour créer pour des hôteliers et des groupes du coup des circuits gastronomiques ou des activités sur l'art de vivre en général, donc voilà dans le sud ou en Europe.
Et moi c'est à Paris, c'est dans une nouvelle entreprise qui s'appelle L'Écalis. Qui est spécialisée dans les huiles d'olive haut de gamme. Et en gros, je serai chargée de toute la partie marketing, promotion de cette nouvelle entreprise.
Mais le blog continue.
Ah,
mais
oui, le blog continue.
On rappelle donc l'adresse du blog, c'est lesdodus.wordpress.com. Merci beaucoup d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci à vous. Bonne soirée. We'll be right back.
C'était les cigognes nénuphars de Forever Pavot.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Nous sommes mardi, il est 19h30 à peu près, c'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Demain, après le Conseil des ministres, Manuel Valls présentera le projet de loi Macron visant à libéraliser l'économie et le marché du travail. Au menu, l'ouverture des liaisons longue distance aux autocars en France, une simplification pour l'installation des pharmacies, une déréglementation partielle de certaines professions, mais surtout une plus grande ouverture au travail du dimanche.
Un travail du dimanche qui oppose de longue date, même au sein de la gauche. Si certains y voient un moyen de relancer l'économie et de créer des emplois, pour d'autres, il s'agit avant tout d'une dégradation des conditions de travail des salariés. La future loi Macron devrait permettre d'augmenter les dimanches travaillés dans l'année, passant de 5 aujourd'hui à 12 dimanches par an. Parmi les opposants, on retrouve en première ligne le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, mais également la sénatrice de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. La représentante de l'aile gauche du PS estime que la loi n'est pas utile, puisque dans les faits, certains travaillent déjà le dimanche. C'était hier matin sur France Inter.
Le problème, c'est qu'il y a toujours eu sur cette question du travail, du dimanche, un désaccord entre le consommateur, qui lui, ça l'arrange, il pense que finalement, bon, et puis le droit du travail. Bon, et je pense que l'état actuel des choses, quand on sait qu'un tiers des Français travaillent déjà le dimanche...
Alors Pierre-Antoine, y a-t-il vraiment un tiers des Français qui travaillent le dimanche ?
Eh bien oui, la sénatrice se base sur une étude de la DARES, la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques, publiée en octobre 2012. Selon le document, en 2011, 6,5 millions de salariés, soit 29% de la population active, a travaillé le dimanche. L'étude va même plus loin puisqu'il faut ajouter 1,6 million de non-salariés, ce qui monte le total à 8,1 millions de Français. Ces non-salariés que Marie-Noëlle Lienemann ne prend pas en compte, ce sont les agriculteurs, mais également les boulangers, les taxis et encore ces autres petits commerces de proximité où le gérant travaille souvent seul.
Mais Marie-Noëlle Lienemann manque de précision.
Effectivement, la sénatrice ne sélectionne que ce qui l'intéresse. Annoncer qu'un Français sur trois travaille le dimanche ne veut pas dire qu'un Français sur trois en 2011 a travaillé un dimanche. L'étude de la DARES montre de fortes disparités selon les sexes, les professions, mais surtout selon les sondés eux-mêmes. En effet, lorsque l'on demande s'ils travaillent de manière habituelle le dimanche, les Français ne sont plus que 13 à répondre par l'affirmative, soit environ 3 millions d'entre eux. Pour les 16% restants, le travail dominical reste quelque chose d'exceptionnel ou occasionnel.
Tu as parlé de différence entre les professions.
En 2011, plus de 80% des salariés travaillant dans la protection et la surveillance des personnes et des biens ont travaillé le dimanche, que ce soit des fonctionnaires, gendarmes, policiers par exemple, ou encore des agents civils de surveillance. Ce sont les professions médicales sont fortement représentées. Plus d'un salarié des services de santé sur deux a travaillé le dimanche en 2011. Ils sont suivis par les enseignants et les salariés participant à la vie sociale, dans la restauration et la vente par exemple. Dans l'ensemble des autres professions, par contre, seulement 16,5% de la population active a travaillé le dimanche. Autre point rarement souligné, les jeunes et les femmes et les fonctionnaires sont surreprésentés. Ainsi, 24% des salariés travaillant le dimanche ont moins de 30 ans, 56% d'entre eux sont des femmes, et enfin 36% des salariés employés par l'État ont été soumis en 2011 au travail dominical, alors que l'État n'emploie que 22% des salariés. Alors si vous êtes une jeune, femme et fonctionnaire, je vous conseille de booker vos prochains dimanches. Il se pourrait bien que vous soyez vite occupé, et ce, même si vous ne l'avez pas choisi.
Merci Pierre-Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir Emmanuel De Clercq.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Les Trois Singes, une asso qui a vu le jour au printemps dernier.
Oui.
Et qui lancera les 13 et 14 juin prochains le festival du même nom, un festival qui sera consacré aux personnes non valides. Comment est née cette idée ?
Elle est née tout bêtement parce que je suis revenu poser mes valises sur Angers. Et il y a eu un festival avec l'association Arrache ton son qui a fait que, et je pensais qu'il allait y avoir une deuxième édition, il n'y en a pas eu. Et en sortant, je me suis dit, bah merde, il faut qu'on fasse tout pour tous les sourds, pour tous les invalides. Et qu'on montre que c'est possible.
Le but, donc, c'est de rendre accessible l'inaccessible.
Voilà.
Y a pourtant plein de festivals aujourd'hui qui axent beaucoup sur l'accessibilité. C'est pas suffisant, selon vous ?
Non, on s'en fout des festivals. Il y en a plus de 2000 en France, on s'en tape. Sinon, je le ferais pas, quoi. Point barre. C'est tout.
Alors, le but, donc, sur place, il y aura plusieurs dimensions. C'est pas qu'un festival de musique, hein. C'est un festival où il y aura des exposants, des organismes. Le but, c'est de mettre, de créer du lien entre les organismes et puis les personnes.
En fait, il faut que les choses changent. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient présents et disent merde. Point barre, quoi.
Merde à quoi ?
Merde à l'accessibilité, merde à tout ça, et qu'il y en a marre, quoi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, toi, t'es en fauteuil, tu viens. Toi, t'es dans un handicap, tu viens.
Ça sera un moment aussi de revendication, de montrer que...
Voilà, et on s'en fout. Et on a envie de dire merde, c'est tout.
Et alors, comment vous allez dire merde ? Sur place, il y aura donc plein de... Il y aura un village d'exposants avec des organismes.
Ouais, carrément.
Il y aura des expos, il y aura des concerts, et il y aura plein de formes d'art différents. Il y aura du cinéma.
Ouais.
Avec Tariq Ben Salah.
Oui. Même plus. Parce que là, on a le film Indésirable aussi qui va venir. Et donc, il y aura plein de choses. Le but du festival, en fait, il est simple. Ça veut dire que tu viens le samedi, tu peux aussi voir le dimanche. Tu rates rien. C'est tout. Et tu peux aller à un festival de magie. Tu peux aller à plein de choses. Et il faut que ce festival soit complètement ouvert. Et si t'as pas d'argent, tu peux venir quand même.
Il y aura de la... Vous l'avez dit tout de suite, c'est pour ça que je me permets de rebondir. Il y aura donc de la magie, il y aura de la mode, il y aura des concerts.
Ouais, on démarre par la mode.
Avec Sandrine Siron.
Exactement, qui est administratrice au conseil d'administration de l'APF.
L'Association des paralysés de France.
Ouais.
Et qui présentera un défilé ?
Oui, et ce sera le samedi et le dimanche. Donc on démarrera avec elle, on fera l'ouverture du festival à 14h.
En termes de concerts, la programmation n'est pas encore annoncée ?
Je ne dirai rien.
Ça sera quand, l'annonce de la programmation ? Pour qu'on sache, pour qu'on se tienne au courant ?
Eh bien, début janvier.
Début janvier. Le festival Les Trois Singes, il sera parrainé. Il y a deux noms pour l'instant. Smaïn.
Ouais.
Pour quelle raison ?
Pour quelle raison ? En fait, c'est assez compliqué à expliquer. Ma grand-mère est morte le jour de mon anniversaire. Smaïn faisait un spectacle. Mon trésorier m'a dit... Sacha, je te fais un gros bisou, m'a dit viens, on y va. Et je lui ai présenté le projet. Et Smaïn est là depuis le début. C'est tout.
Ça fait partie de l'histoire du festival.
Ouais.
L'autre parrain, c'est Laurent Savard.
Ouais.
Qui a monté un spectacle qui s'appelle Le Bal des Pompiers et qui aborde avec humour la différence d'un garçon qui s'appelle Gabin et qui est un enfant autiste et hyperactif. C'est un spectacle qui vous a touché ?
C'est plus que ça, c'est que tout simplement c'est un humoriste qui a mis sa vie quelque part de côté pour s'occuper de son enfant. Et aujourd'hui il revient, et il veut faire entendre, et c'est pour ça que au niveau des Trois Singes... Voilà, c'était presque évident.
Est-ce qu'il y aura d'autres parrains annoncés en janvier ? Je sais qu'on ne va pas le dire, hein, mais est-ce qu'il y a encore des personnes ?
Ouais, il y en a d'autres. Mais je dirais rien.
y aura des grosses surprises, quoi.
Oui. Ça. Ouais.
On va parler du lieu choisi, c'est le Parc Expo. Initialement, ouais. Emmanuel Declercq, vous aviez prévu d'organiser le festival dans un endroit plus modeste, plutôt un parc. Et là, bam, le Parc Expo. Pourquoi ?
En fait, quand on... Moi, ça fait 6 ans que je travaille sur le projet. Il y a eu une première équipe qui a été faite et qui aujourd'hui n'est plus, parce que cette première équipe a voulu quelque part, entre guillemets, profiter de mon portefeuille client, de mes relations. Et donc on a voulu faire ça au niveau du parc. Mais après, il y a eu tellement de demandes que... C'était impossible.
Ça a pris trop d'ampleur.
Ouais, donc... ça a pris trop d'ampleur. On ne mesurait pas la chose. Et ça, c'est une erreur de ma part. C'est vraiment une erreur. Et voilà. Et quand j'ai été voir le quai, quand j'ai été voir le Palais des Congrès, ils m'ont dit « Mais non, mais attends, Manu, va au parc exposition. Point barre. »
C'est plutôt une bonne surprise.
Ouais, et je fais un gros bisou à Claire, la directrice du parc, qui s'investit et c'est génial.
Emmanuel Declercq, on va quand même conclure en parlant de votre kiss-kiss bang-bang. Vous avez lancé un appel,
ouais, génial.
On dit crowdfunding en anglais, voilà, j'arrive jamais à le dire, mais c'est comme ça. Pourquoi vous faites appel comme ça ? Est-ce qu'on peut encore, s'investir ?
Franchement, c'est que dalle par rapport au projet. Je vais être très clair avec tout le monde, on est sur un budget de 164 000 euros. D'accord ? Sur kiss-kiss bang-bang, on demande 6 000 euros. C'est juste histoire de...
C'est symbolique, ouais.
Ouais, que les gens comprennent, quoi. Et voilà. Et on pose des questions sur le prix des entrées. C'est... tout le monde sera pareil. Genre Manolo, par exemple, avec les gypsies, ce sera 35 euros pour tout le monde. Il n'y aura pas de tarif... Pour les handicapés, on est tous au même niveau et c'est le but du jeu.
Le festival ce sera donc les 13 et 14 juin prochains au Parc Expo. Et puis pour la prog, ben on va attendre début janvier alors.
Yes,
merci,
je te dirais ça.
Emmanuel Declercq, d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Je te remercie à toi.
alias Rabani, la danse de Nadia.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est aux 400 coups à 20h15 dans le cadre de Cinéfac. Retrouvez The Queen, le film de Stephen Frears avec Hélène Mirren, présenté par Yvelin Ducotet, chercheur à l'université, qui travaille sur un doctorat sur le genre du biopic, tarif spécial pour vous les étudiants, 4,70€. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Voilà un extrait de Pas de panique de la semaine dernière. Clavette nous donne des conseils pour mieux gérer nos réseaux sociaux.
Si vous êtes membre d'un groupe de death metal, d'une asso pour défendre les pandas antarctiques, ou tout simplement si vous gérez la page Facebook des fans de Michel Sardou à Angers, vous avez très probablement une communauté à gérer. Alors oui, c'est pas parce que vous avez que 20 fans sur votre page, en comptant votre grande tante Germaine, qu'il faut s'y prendre n'importe comment. Voici mes 5 petites astuces pour gérer votre communauté sur les internets du 3e millénaire. Conseil numéro 1. Invitez vos amis, mais pas n'importe lesquels. Invitez ses potes à liker sa page Facebook, c'est une idée qui marche. Les premiers à s'intéresser à ce que vous faites seront ceux qui vous connaissent, et s'ils associent le nom de votre page à quelque chose que vous faites, ils iront probablement la liker. Le problème, c'est que Facebook ne montre pas aux gens ce qui ne va pas les intéresser. Ce pote de collège que vous avez encore en ami sur Facebook, il ira peut-être liker votre page de votre groupe de rock, mais ça veut pas dire qu'il écoute du rock, et donc ça veut pas dire que Facebook lui montrera. Ce pote de collège n'est donc pas un fan qualifié, c'est-à-dire un fan qui va liker, commenter ou partager ce que vous postez.
On va pas se mentir, nous aussi on fait ça sur pour le groupe Pas de panique.
Ah, c'est normal. Hein.
Alors, c'est quoi la solution à ce problème ?
Et bien, la solution à ce problème, vous l'aurez si vous allez sur le www.radiocampusangers.com pour écouter la totalité du programme Pas de panique. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Ciné Quanon. Salut Jean Hitchcock.
Salut.
Alors, de quoi ça cause ce soir ?
Alors, ce soir, on va parler à la fois de Noël et de l'année 1994 et on va essayer de résoudre la question : est-ce que Super Noël, le film de Noël de l'année 1994, est le pire film de Noël de tous les temps ?
Réponse donc dès 20h dans Ciné Quanon. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain à 19h. Le sous-marin parlera sport étudiant. Merci à Pierre-Antoine, merci à Thomas qui a co-préparé l'émission et à Rémi pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.